L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 8h. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville du Mans, près de la paroisse de Souligné. Ce matin du 25 novembre 1573 se préparent les noces de Françoise de Maridor, cette région qui compose le berceau de sa famille. Au calendrier de l'histoire, nous sommes dans la seconde moitié du XVIe siècle, une période où le royaume de France traverse la pire tourmente de son destin. Ce que les spécialistes nomment les guerres de religion, ou mieux, les guerres civiles, ou les deux à la fois. Il est 8h, l'heure H de mon histoire. Déjà, ce mariage est à l'image de son temps. La famille de la future mariée est protestante et Françoise va épouser un propriétaire catholique, Jean de Caume, baron de Lucé. Dans la noblesse, ce genre d'union entre gens de croyances différentes est fréquent. Les Maridor ont de la fortune et un statut qui les distingue. Anne, la mère, et Olivier, le père, sont attachés à la cour de la sévère Jeanne d'Albret, mère du futur Henri IV. Anne, en tant que dame d'honneur, Olivier comme écuyer tranchant. Le père, parlons-en. Il représente le type même du seigneur du XVIe siècle. Mi-gentilhomme, mi-soudard. Cette période de conflit a fini par ôter à ce genre de personne tout scrupule. Et il n'est pas le seul. Les hommes de ce rang tuent quiconque semble n'être pas de leur avis, presque avec désinvolture, souvent en toute impunité, pour un oui ou pour un non. Sous prétexte de défendre leur religion, ils suppriment volontiers ce qui les gêne. Ainsi, la belle Françoise de Maridor est déjà marquée du sceau de son époque troublée. Mais la mariée était-elle trop belle? Assurément. Nous n'avons pas, hélas, de portrait authentique de notre héroïne, mais on la disait très belle, très très belle même. Très belle et très riche, et peut-être aguicheuse, et toute jeune. Par manque d'archives, on ne peut préciser son âge exact lors de son mariage, mais on peut le situer entre 15 et 18 ans. On mourait parfois jeune à l'époque, et les gentilshommes du temps n'avaient point coutume d'épouser des vieilles et des laiderons. Ce qu'ignore la belle Françoise, c'est qu'elle va signer un pacte sanglant avec la vie et ses amours. Elle n'imagine pas qu'elle va être au cœur d'un assassinat retentissant, puis qu'elle va passer définitivement à la postérité au XIXe siècle, grâce à Alexandre Dumas qui lui consacre un de ses romans les plus connus, « La Dame de Montsoreau ». Elle ne peut évidemment pas deviner que plusieurs actrices vont l'incarner à l'écran, ni même qu'elle va être la vedette de notre Heure H aujourd'hui. En ce jour d'automne 1573, pour les Maridor et la belle famille, c'est un grand mariage et une grande joie. Au château de Lucé, où résident les jeunes époux, le luxe s'étale. On le sait par un inventaire, couchette dorée et peinte avec couette et traversin. Cela pour la nuit de noces et les autres. Lourdes argenteries et riches vaisselles de faïence qui font l'orgueil de la jeune épousée, mais surtout son reliquaire, épais tapis et pièces de tapisserie qui égaient son regard et réchauffent carrelage et mur du château. Un mari aimant et ardent. Ce dernier emmène sa jeune femme à Paris et la présente au roi Charles IX et à la reine-mère Catherine de Médicis. La beauté séduisante de Françoise ne passe pas inaperçue à la cour. Ne dit-on pas que la reine-mère, qui aime s'entourer des déesses les plus aimables du royaume, l'inscrit déjà sur la liste de ses dames d'honneur? Elle le saura, c'est un fait acquis. Elle fera partie du célèbre escadron volant qui, encore aujourd'hui, suscite bien des fantasmes. « devient Françoise? Une belle au physique enchanteur, à montrer lors des fêtes nombreuses qu'organise la Médicis à la cour. Elle fait partie de cet essaim de dames de qualité qui savent paraître, deviser, sourire, chanter, danser. Un véritable honneur pour les maris d'or d'avoir ce genre d'élu dans la famille. Françoise saura jouer de son élégance, de sa grâce et de son charme. Mais Catherine y voit peut-être un autre rôle pour ses protégés. Séduire les gentilshommes, assumer une action politique sous prétexte que le repos du guerrier invite au divertissement et peut-être aussi à la confidence. Lorsque les armes sont déposées au râtelier, ces bouillants jeunes gens aiment baiser et faire l'amour. Attention, à l'époque, baiser signifie embrasser, et faire l'amour veut dire courtiser, pas plus. Pas plus ? Catherine surveille drastiquement ces dames d'honneur et interdit les privautés. Oh, cela n'empêche pas certaines de s'abandonner, de tomber sous le charme et de s'allonger. Catherine ferme les yeux. Certaines sont-elles ses pions afin d'espionner les grands du parti protestant ? C'est possible. Chaque belle tire une gloire du nombre de ses soupirants. Mais malheur à celle dont le déshonneur éclate. Malheur à la victime de l'enflure du ventre, à savoir une grossesse inopinée. Il y aura quelques scandales de ce genre. Il faut avouer que cette cour des derniers Valois devient de plus en plus dépravée, à l'image des fils de Catherine de Médicis. Ils courent les femmes, suscitent des scandales, organisent des équipées et des orgies nocturnes. Ne dit-on pas en coulisses que leur sœur, Marguerite, cette jeune fille de 16 ans, que Charles IX appellera la reine Margot, se montre sensible à un beau blond au regard clair, le tout jeune duc de Guise. Ne racontera-t-on pas qu'après cette passade, elle le remplacera par la coqueluche de ces dames, un certain bellâtre du nom de Bussy d'Amboise, beau comme un dieu, dangereux comme un diable. Nous allons bientôt rencontrer. Pour l'heure, le destin de Françoise va éclater en plein ciel clair, comme un violent orage. Car il faut tenir compte de l'insécurité et de la violence du temps. Un an après les noces, à la veille de la Noël 1574, Jean de Caume, l'époux, se fait trucider par des soldats protestants au siège de Lusignan, en Poitou. Ces meurtriers ne sont autres que des coreligionnaires de sa belle famille. On lui fait toutefois de somptueuses funérailles. Ceci caractérise parfaitement ces temps maudits. Le royaume de France connaît une des périodes les plus violentes de son histoire, sinon la plus violente. D'ailleurs, Françoise ne va cesser de le découvrir. Elle aurait dû écouter ce que confiait un adulateur à une dame de la cour. « Vous êtes née d'un misérable temps. » Misérable temps, en effet. Déjà à la cour des Valois, les rois, que ce soit Charles IX ou Henri III, ont parfois du mal à arbitrer les conflits des factions ennemies. Partout, des opérations confuses, entrecoupées de pauses de paix, opposent catholiques et protestants. La violence religieuse y est extrême. Les protestants qu'on nomme huguenots ou réformés dévastent les églises, abattent les statues, brûlent les orgues et les croix. Les catholiques, eux, déchirent les Bibles qu'ils promènent au bout de leur hallebarde et en se gaussant du dieu de papier. Et bien sûr, on tue. Et bien sûr, les deux parties s'organisent autour de grandes familles nobles, la plus célèbre étant celle des Guises catholiques qui visent le pouvoir. Mais ce sont les violences individuelles et collectives qui sont les plus terribles. La jeune mariée en sera témoin et actrice, contre son bon vouloir d'ailleurs. Un an avant son mariage, la France entière a été effrayée par l'horreur du fameux massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572 et les jours suivants. Tuerie qui n'a pas seulement ensanglanté Paris, mais également la plupart des villes de France. Origine et coupables sont restés obscurs, mais le bilan de 10 000 morts a été reconnu pour Paris et la province. Au milieu de ce déchaînement exacerbé, voici donc la toute jeune Françoise, devenue veuve, à peine âgée de 20 ans et à peine mariée. La voici seule, dans le grand château de Lucé. Oh, pas très longtemps, à cause de certains problèmes de succession. Elle pleure son époux le temps de la convenance et puis se retire auprès de sa mère. Mais bien vite, elle ne va pas tarder à enflammer d'autres hommes. Et cela lui est assez facile. Les prétendants se poussent au portique familial et sollicitent l'honneur et l'intérêt de s'allier au mari d'or. Deux semblent acharnés. Jean de Beaumanoir et Charles de La Rochefoucauld, un demi-favori de Henri III. Un des mignons de ce roi, mignon ne signifiant pas nécessairement homosexuel. Évacuons au passage ce genre de confusion historique. Deux coqs pour une belle. Les deux soupirants se jalousent, s'affrontent, entrent en guerre privée et finissent par se combattre en engageant leurs propres troupes. Parfait exemple des luttes personnelles dont nous avons parlé. Au cours de l'une d'elles, Charles perd la vie d'un coup de pistolet à la tête tiré par son rival. Voilà comment, à l'époque, on règle les amours. Deuxième noce de sang pour la belle Françoise, qui renonce, bien entendu, à convoler avec l'assassin de l'un de ses prétendants. En 1575, un troisième gentilhomme lui est présenté. Jean de Chambes, aimable, belle allure, éloquent, séduisant. Il effectue sa demande, accompagné de son frère cadet, Charles. Ce Jean de Chambes est seigneur de Montsoreau, propriétaire d'un superbe château planté encore aujourd'hui au bord de la Loire, entre Tours et Angers. Les deux frères sont subjugués par la beauté de Françoise. Cette dernière, si on lui demandait son avis, choisirait ce Jean. Plus de vigueur, vaillant chevalier, rude, un peu grossier, réputé massacreur de huguenots. Finalement, assez semblable au père de la jeune veuve. Charles, lui, est plus timide, plus doux, le regard tout en caresse. De plus, Jean est l'héritier du titre. Il est immensément riche. Qui décide ? Françoise ou les parents ? Toujours est-il que Françoise songe à accorder sa main à Jean. Déjà, on les considère comme fiancés. Mais le destin frappe à nouveau, avant même le mariage. Signe des temps, en septembre de cette année 1575, Jean de Chambes meurt assassiné par une bande d'adversaires. Nouvelle noce de sang pour Françoise. Dès lors, chez les maris d'or, on n'hésite plus. Charles l'emporte. Comme il succède à son frère et hérite de toute sa fortune et de ses deux châteaux, l'avenir de Françoise est assuré. Le sort en est jeté. Le mariage a lieu le 10 janvier 1576. Altier, taiseux, voire farouche, le marié est conseiller d'État et gentilhomme de la chambre du roi. Et la séduisante Françoise devient la dame de Montsoreau, enfin. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous partons en 1576 à la rencontre de Françoise de Maridor, une jeune femme d'une incroyable beauté qui enchaîne les noces de sang. Après son mariage avec un certain Charles, elle devient Madame de Montsoreau. Tout semble enfin aller au mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est sans compter sur le destin, qui n'a pas dit son dernier mot. Pendant ce temps, à la cour, un certain Bussy d'Amboise, séducteur invétéré, assure son ascension. Il a beaucoup d'atouts personnels, mais un caractère quelque peu inquiétant. Un jour au Louvre, il a déjà croisé une beauté qu'il ne connaissait point, mais dont il a gardé un souvenir désirable. C'était, on s'en doute, notre Françoise. Mais à cet instant, il a d'autres plaisirs en tête. En effet, après ses amours avec le jeune duc de Guise, Marguerite, la future célébrissime reine Margot, âgée de 21 ans, s'est éprise de lui. Elle est pourtant depuis 2 ans l'épouse légitime et politique de Henri de Navarre, le futur Henri IV. Monsieur Louis de Clermont-d'Amboise, seigneur de Bussy, pour bien le nommer, est un homme de guerre, doublé d'un courtisan. C'est le prototype du gentilhomme de la cour des Valois, galant comme l'apprécie la Renaissance. Un portrait conservé au musée de Reims le montre avec un léger sourire, le visage harmonieux, des lèvres fines surmontées d'une légère moustache. Il a 25 ans quand commence ses amours avec Margot. Le personnage est double. Ce qu'a aimé tout de suite la jeune sœur du roi est sa beauté, sa verve et sa bravoure. Oh, c'est un intrépide. Certes, un courageux, un homme élégant et galant. Il sait séduire et faire l'amour, ce qu'elle apprécie beaucoup, on s'en doute. De plus, il parle bien. Il a un joli brin de plume et versifie des poèmes en hommage à ses belles conquêtes. Il a même publié un recueil de stances. Côté déplaisant, Bussy est fanfaron, insolent, orgueilleux, opportuniste, en diable. Côté sombre, il est dénué de tout sens moral. Il cherche querelle à qui lui barre la route, à qui conteste ses propos. Il provoque en duel bon nombre de courtisans. Il est aussi dénué de tout scrupule. Durant le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, il a profité du désordre meurtrier pour assassiner son cousin Huguenot, avec qui il était en procès. En opportuniste qu'il est, il a compris que les 2 enfants cadets de la reine Catherine de Médicis, Henri III et François d'Alençon, sont devenus ennemis. Bussy finit par jouer la carte du cadet, le duc d'Alençon. Il ne cesse d'attiser la mésentente des frères. Pour ce faire, il use même de l'épée, du poignard. Mais Marguerite en est bleue. Elle l'avoue en cachette. Au palais du Louvre, on murmure, on avertit Henri de Navarre, on accuse Margot d'infidélité. Scandale ! Comme elle l'a fait durant ses amours avec le jeune duc de Guise, elle nie tout. Catherine, sa mère, se fait même avocate de l'honneur de sa fille. Mais personne n'est dupe. Bussy est bien l'amant de Marguerite. À l'époque, à la cour, un amant se doit de ne pas être discret. Ces mâles vivent dans une société de l'exploit. Ils clament leur victoire dès qu'ils ont conquis une nouvelle maîtresse. Un exploit de guerre amoureuse, comme les autres exploits, doit être signalé sur le champ. Toute la cour doit être au courant pour que la renommée retombe sur le vainqueur. Victime du statut de la femme à la Renaissance, Margot se doit, elle, d'être discrète. Lorsqu'une femme se lance dans une relation extra-conjugale, elle ne peut perdre son honneur et sa réputation. La règle à suivre, au XVIe siècle, est la suivante. Elle ne se compromet pas quand elle tombe amoureuse d'un autre homme que son mari. Mais elle perd toute réputation si la consommation charnelle est avérée et connue. C'est le cas si les amants sont découverts, si le séducteur se vante ou si on l'a vu sortir de la chambre de sa belle. Les pamphlétaires, eux, sont loin d'être discrets. Ils s'en donnent à cœur joie et traînent Marguerite dans la boue. C'est d'ailleurs pour cela que noircir encore aujourd'hui l'image de cette jeune femme en prenant ses pamphlets pour vérité historique n'est que mensonge. Leurs auteurs étant souvent du parti protestant. Toutefois, ces rumeurs, ces remue-ménages ne font qu'attiser la colère et la haine d'Henri III pour Bussy d'Amboise. Telle est la situation au moment où le sort du beau gentilhomme va le rapprocher de la belle Madame de Montsoreau, qu'il a entreaperçue au sein de l'escadron volant. La jeune épouse se contente pour l'instant d'une existence tranquille, d'un ennui conjugal évident au bord de la Loire. Elle partage ses séjours entre le château de Montsoreau et celui de la Coutancière, qu'elle préfère pour son charme. Cet autre patrimoine de son mari se situe à très peu de distance, sur l'autre rive du fleuve, presque en face de Montsoreau. Espérait-elle plus de la vie à deux? Rêve-t-elle à un prince plus charmant que son banal mari? À une aventure amoureuse et romantique qui la verrait follement éprise et sensuellement comblée? Les événements vont venir au devant de ses désirs. Voilà qu'en cette année 1576, Tout va s'accélérer et rapprocher géographiquement le beau Bussy de la belle Marie d'Or. Tout va se jouer maintenant dans le paysage enchanteur de la Loire. Dans ce triangle entre Montsoreau, Angers et le château de la Coutancière. Mais aussi dans un autre triangle, plus exaltant certes, mais aussi plus dangereux. Triangle traditionnel à l'opéra comme dans les mélodrames. Celui qui rassemble la belle, le mari et le séducteur. Françoise, comme toute femme, se plaît à rêver. Rêver de quoi ? Elle le définit mal elle-même, mais peu importe, du moment qu'elle sent battre son cœur plus vite. Et peut-être aussi frémir son corps. En attendant, elle soigne son ennui lors de quelques apparitions à la cour en tant que dame d'honneur de Catherine de Médicis. Bussy, lui, obtient enfin la récompense de son dévouement en François d'Alençon, qui porte désormais le titre de duc d'Anjou. Ce dernier lui accorde toute sa confiance et le nomme gouverneur de l'Anjou en mai 1576, un poste plus que flatteur. Et ça tombe bien. Bussy commençait à se lasser de la cour de François d'Alençon, sans cesse entre duel et galanterie. Il se lasse aussi de son rôle de chevalier servant auprès de l'envahissante Marguerite de Navarre. En juin, il quitte Paris avec son escorte de cavaliers et amis et entreprend sa descente vers l'Anjou. Le 10 novembre, il fait son entrée officielle dans la ville d'Angers. Les cloches carillonnent par toute la campagne angevine. Les notables en costume d'apparat, les troupes de la milice, les bourgeois et les éminents magistrats accourent à sa rencontre. Et Bussy s'installe dans sa nouvelle demeure, le château d'Angers, alors dans toute sa splendeur, ceinturé qu'il est de ses multiples tours d'origine qui lui donnent une impression de force et de rudesse. Chacun paraît enchanté, mais les angevins vont bientôt déchanter. Le véritable caractère de Bussy va vite prendre le dessus. Des désaccords apparaissent. Bussy se révèle intransigeant, brutal, coléreux. Ses troupes rassemblent les pires soudards, coupe-jarrets et pilleurs. Les habitants se liguent contre le nouveau gouverneur qui, en représailles, lance ses compagnies contre le pauvre peuple. Exactions, pillages, tueries. Au comble de la fureur, Bussy quitte le château d'Angers et se réfugie dans celui des Ponts de Cé. Cet avant-poste de la défense sud d'Angers protège l'unique passage sur la Loire entre Saumur et Nantes. Endroit stratégique donc. Tout l'Anjou finit par détester son nouveau gouverneur. La cour doit même intervenir pour calmer ce conflit. Elle descend à Angers, Catherine de Médicis et François d'Alençon en tête. Françoise de Montsoreau et son époux Charles de Chambes étaient-ils de la fête qui dura près d'un mois? C'est tout à fait plausible. En effet, Charles a été nommé grand veneur du duc d'Anjou, à savoir qu'il administre les battues du prince et commande aux officiers de la vénerie pour les chasses à cour. Ces chasses se déroulent partout où le souhaite François d'Alençon, surtout dans les zones giboyeuses autour de la capitale. Ce qui signifie que Charles, de par sa charge, est souvent absent, et son épouse souvent seule. Des historiens soupçonneux ont même pensé qu'il fallait voir, derrière cette nomination, une intention diabolique de la part de Bussy, afin d'éloigner le mari. Maintenant qu'il réside en bord de Loire, Bussy pourrait ainsi se rapprocher d'une proie féminine qu'il a déjà estimée à sa juste valeur. Et en effet, lors de la venue de la cour à Angers, Bussy organise des chevauchées dans les campagnes, dont il est le maître désormais. Le duc et sa suite l'accompagnent. Ses riches cavaliers, ses splendides costumes, ses superbes destriers ne passent pas inaperçus dans le pays angevin. On franchit 7 ou 8 lieues, on passe dans un nuage de poussière, on fait halte dans quelques châteaux. Leurs propriétaires, se sentant honorés, s'empressent de préparer une collation et parfois des chambres pour accueillir ces gens d'importance. La reine-mère Catherine, excellente cavalière, est souvent des leurs. Elle retrouve ainsi certaines dames d'honneur de son escadron volant. Alençon, lui, retrouve des seigneurs de province qui passent une partie de l'année dans leur demeure et une autre à la cour. Au fil des arrêts dans ses châteaux d'Anjou s'ébauchent des intrigues, politiques ou autres. En revenant du château de la Flèche, qui a l'idée de s'arrêter dans une des deux demeures du grand veneur, Catherine veut-elle revoir Françoise, sa dame d'honneur, ou Bussy a-t-il une idée derrière la tête? À moins que ce ne soit à la propre invitation du grand veneur. Toujours est-il que tout ce beau monde se retrouve au château de la Coutancière, qui se dresse à quelques 10 kilomètres de la rive droite de la Loire. Le duc et les siens passent toute une journée auprès du grand veneur. Ce dernier fait visiter son château coiffé de raffinées tours pointues. À ses côtés, bien sûr, brille Françoise. Bussy ne la quitte pas des yeux et la trouve encore plus belle que dans son souvenir. Il échafaude déjà des plans de conquête et de séduction. Qui nous dit que cela n'enchante pas Françoise? Bussy la regarde s'empresser auprès du prince et de ses invités. C'est elle qui offre la collation au duc et à Bussy, qui est quand même gouverneur de l'Anjou. Désireux de montrer ses talents, Charles propose une partie de chasse. Mais le duc n'a prévu qu'une halte passagère. Bussy ne perd pas de temps. Comme à chaque fois qu'il voit une jolie femme, il s'empresse, fait discrètement un brin de cour à l'hôtesse qui répond gaiement à ses propos et semble honorée. Mais François d'Alençon donne le signal du départ. Les cavaliers sont déjà en selle. La troupe s'éloigne au grand trot. Debout sur le perron du château, Françoise de Maridor la regarde disparaître à l'horizon des campagnes. Elle suit particulièrement des yeux le bellissime gouverneur qui lui a adressé des mots si empressés et de si charmants compliments. Ce qu'ignore Bussy, c'est qu'à Paris, son étoile est en train de pâlir. L'estime des grands est une implacable girouette politique. Le nouveau duc d'Anjou se rapproche de son frère, Henri III. Bussy est de plus en plus écarté. Très vite, c'est la disgrâce, probablement demandée par le roi. On l'exile. Il n'est plus souhaité à la cour. Il crie à l'injustice, se pose en victime, accuse l'ingratitude des grands. Rien n'y fait. Rempli d'amertume, la mort dans l'âme, il se retrouve seul dans son Anjou. Il va s'y ennuyer, logé dans le petit château des Ponts de Cé, à cheval sur la Loire en ces temps. Bussy va beaucoup s'ennuyer, en effet. Il a beau avoir gardé ses titres, il a beau demeurer gouverneur de l'Anjou, il a beau traîner derrière lui une fameuse réputation, il est seul, loin de Paris, loin de la cour, où il a tant paradé. Il tourne en rond dans ce château inconfortable. Les fêtes sont loin, elles se font sans lui, et il se morfond. Alors que faire? Dévaster la campagne avec ses soudards? Terroriser le menu peuple encore plus? Se donner l'illusion d'avoir encore un pouvoir? Même ça, ça le lasse. Alors il chevauche sur les routes poussiéreuses qui entourent les Ponts de Cé. Il part de grand matin, galope comme l'éclair, à bride abattue. Seuls ses chevauchés calment sa nervosité et sa déprime. Une de ses cavalcades le conduit un jour à Saumur. C'est là qu'il rencontre, pour affaire, semble-t-il, un officier de la Sénéchaussée du nom de Claude Colasso. Ce dernier est lieutenant criminel, fonction honorable, ancienneté de noblesse. Par sa charge, se dit Bussy, cet homme doit connaître tous les seigneurs des environs. Une idée germe en lui. Il confie à Colasso les tristesses de son exil. Qu'à cela ne tienne, réplique le lieutenant. Les dames d'Anjou ne sont ni laides ni prudes. Je vous en ferai connaître. Mais faire la cour aux femmes, même cela ne motive plus guère l'ex-séducteur. Sauf que, il se rappelle la réception au château de la Coutancière, l'épouse du grand veneur. Il se hasarde. Dites-moi, lieutenant, avez-vous connaissance de la dame de Montsoreau? Ah, certes oui, répond l'officier. Si vous avez l'occasion de passer près de la Coutancière ou au château de Montsoreau, cela vous est aisé, c'est si proche. Portez donc, je vous prie, ce message de ma part. Le destin de Bussy et de Françoise se noue alors subitement, car l'enjôleur sait choisir ses mots. Dans le billet, il adresse ses hommages respectueux à la châtelaine et lui exprime son désir d'aller la saluer. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que Françoise de Maridor accueille avec joie ce billet très habile, d'autant qu'elle demeure seule très souvent. Son époux est à Paris. Il a sa place désignée dans la nouvelle cour qu'a aménagée le duc d'Anjou auprès du Louvre. Dans sa solitude, Françoise accueille l'annonce de la venue de Bussy avec le plus grand bonheur. Elle se souvient trop bien de cet après-midi où le brillant gentilhomme l'avait si bien charmée. Elle se souvient qu'elle est femme et que son époux Charles n'est guère enclin au plaisir du déduit, comme on le nomme alors. Autrement dit, aux jeux amoureux, Les lettres de sa main nous apprennent qu'il est timide, peu attiré par l'aventure et qu'il préfère se plonger dans les livres. Alors que les témoignages d'époque laissent penser que son épouse est d'une intelligence moyenne mais avide de plaisir. Et voilà, il y a soudain sur ces bords de Loire deux exilés, deux solitaires qui se revoient et se confient leur délaissement. Ils sont tous deux d'une grande beauté et ont les yeux qui pétillent.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte la vie sentimentale mouvementée de Françoise de Montsoreau. Après quelques mariages marqués du sceau du malheur, Françoise coule des jours un peu trop paisibles en bord de Loire. Jusqu'à l'arrivée d'un gentilhomme séducteur, un certain Bussy d'Amboise. Tendresse, séduction, charme, mots échangés au plus près de la bouche, au plus près de l'oreille. Bussy fait sa cour. Bussy devient bientôt amoureux fou de Françoise de Montsoreau. En honnête femme, cette dernière ne voit aucun mal à réinviter ce galant homme, d'autant qu'il est autorisé par les mœurs de l'époque d'user d'un langage assez libre avec les dames de haut parage. Ses propos n'offensent en rien la sensibilité de la belle. Au contraire, la finesse corporelle et les manières gracieuses font de Bussy un idéal masculin de son temps. Ses épaules larges, sa barbe entière, ses vêtements raffinés aux couleurs à la mode ont tout pour la séduire. Mais n'est-il pas toujours dangereux de rendre trop souvent visite à une épouse jeune, belle et esselée? Rappelons un des conseils de cette époque. La femme n'oubliera aucun autre office de la vie domestique, mais aussi aura connaissance de la nature et dignité de son mari, lequel elle craindra comme un supérieur. Voilà qui est dit. Bussy, habitué aux conquêtes faciles, s'étonne de la résistance de Françoise. Elle sourit, se moque un peu, mais ne veut en rien le décourager dans sa cour de plus en plus pressante. Dès lors, il multiplie ses visites à la coutancière. Et comme l'écrira plus tard Alexandre Dumas dans son roman, Bussy se mit à la recherche de son rêve, de plus en plus convaincu que c'était une réalité. Dès lors, Bussy s'exalte et se vante, d'abord auprès du lieutenant Colasso, à qui il confesse son intrigue. Ensuite, la plume trempée dans sa fatuité naturelle, il écrit une lettre à un ami parisien dans laquelle il lui confie ce qu'aurait dû rester un secret. Voilà comment, en un langage à peine voilé, il avoue sa passion. « J'ai tendu des raies à la biche du grand veneur et je la tiens dans mes filets. » On a compris, le grand veneur et le mari, les raies servent à capturer le gibier et la biche. Inutile de faire un beau dessin. Impossible de savoir à ce stade de notre histoire à quelle intimité sont arrivés les deux tourtereaux. Françoise a-t-elle cédé aux avances de son admirateur? S'est-elle donnée à lui dans l'anonymat du château de la Coutancière? C'est bien possible. En tout cas, la fameuse lettre fait grand bruit à Paris. Les chroniqueurs, le célèbre Brantôme en tête, écrivent que le gouverneur fait l'amour à la femme du grand veneur et qu'elle-même n'est pas insensible à ses plaisirs de la chair. Ils ne font que répandre une rumeur publique, rumeur qui se répand à la cour et c'est là que débute le drame. La lettre de Bussy circule. On la fait lire à François d'Alençon qui, habile, joueur ou pervers, la communique à son frère Henri III. Le roi jubile. Le roi tient sa vengeance, lui qui traîne depuis des années une haine farouche à l'égard de l'arrogant. Et que fait le roi ? Machiavélique, il la montre au grand veneur, au mari, à Charles de Montsoreau. Sur le champ, le naïf, outragé dans son honneur, demande au roi l'autorisation de se venger. « Laissez-moi partir pour la Coutancière, sire. » Et Henri III de répondre, « Mes chers comtes, vous êtes libres. Agissez comme vous l'entendez. Nous saurons par après fermer les yeux. » Un cavalier perdu, montant des destriers aux naseaux fumants, passe en trombe et gagne en 3 jours le Val-de-Loire. Arrivé à la Coutancière, il se précipite dans les appartements de son épouse et la soumet à un interrogatoire serré. Elle est en émoi. Elle ne nie pas les assiduités de Bussy, Elle hésite, elle reconnaît ses imprudences. Elle affirme n'être pour lui qu'une simple amie. Sur le champ, Charles entraîne son épouse dans son cabinet de travail et lui dicte un billet destiné au présumé amant. Françoise, de sa propre main, se voit obligée de lui donner rendez-vous la nuit suivante au château. Pas question d'explication entre lui, le séducteur et la coupable. Ce qu'il veut, c'est venger son honneur. Il envoie un serviteur à Angers afin de remettre le pli. Ce 19 août 1579 va sonner une seconde heure H pour la belle Françoise de Marie d'Or. Bussy tombe dans le piège. À 10 heures du soir, il lance son cheval au galop vers le château de sa belle. De son côté, Charles n'a rien laissé au hasard. Il a rassemblé une dizaine de soldats bien gaillards, ses serviteurs et ses valets d'armes. À chacun, il a fait distribuer une cotte de maille et une bonne épée. Et une seule consigne, fondre sur l'adversaire dès son arrivée et le percer de 1000 coups. « On m'attend », lance Bussy, à peine descendu de cheval, excité à l'idée de retrouver sa chère Françoise pour une nuit entière. Le rêve de tout amant. Bussy gravit les marches, un serviteur le précède, il ouvre une porte. Dans un élan rageur, 10 hommes armés se jettent sur lui, l'épée haute. Bussy comprend qu'il a été trahi. Il se rue en rugissant sur ses assaillants, les oblige à reculer. Sa riposte est terrible. Il blesse grièvement 4 d'entre eux. Les autres redoublent leurs coups, obligent le gouverneur à rompre, à reculer en termes de combat. Son épée se brise sur une cotte de maille. Désarmé, il se bat avec un escabeau, le lance à toute volée. Il fait de même avec un banc. Le meuble se brise, le cercle des agresseurs se referme. Bussy fait face avec un courage digne de son rang. Il recule. Il a repéré une fenêtre. S'il l'atteint, il est sauvé. Il fait un pas, prend en main son manteau, s'en fait un rempart. Atteint la fenêtre, il va sauter. C'est à cet instant que Charles de Chambre surgit de l'ombre. Il a suivi le combat. Il veut seul assumer sa vengeance. Il vise, le coup part. Bussy s'écroule. Il bascule par la fenêtre. Certains diront que c'est le valet d'armes du grand veneur qui lui a tiré dans le dos. Toujours est-il que, basculant dans le vide, blessé à mort, le corps du beau Bussy reste accroché en contrebas aux pointes de fer d'une grille. Ses assassins n'ont plus qu'à l'achever à coups d'arquebuse. Dans une pièce éloignée, loin de ce sanglant tumulte, Françoise de Marie d'Or, comtesse de Montsoreau, attend en silence, selon les ordres de son époux. On aimerait connaître son état d'esprit, ses regrets, son sentiment de culpabilité à ce moment-là. Les deux époux vont-ils être capables de cohabiter avec ce meurtre? Apparemment, et sans problème. Ce qui nous amènerait à croire que la dame ne s'est pas donnée au beau gentilhomme, qu'il ne représente pas un être cher à ses yeux, mais... peut-être a-t-elle bien joué son jeu, gardant intimement en elle une profonde blessure d'amour. Et en haut lieu. D'abord, Charles de Chambre, grand veneur du duc d'Anjou, n'est pas inquiété. Le roi ne lui avait-il pas promis l'impunité? N'avait-il pas poussé lui-même le comte au crime? Comme si de rien n'était, Charles reprend sa charge à la cour du duc d'Anjou. Ni Henri III, ni son frère ne s'émeuvent de la disparition de Bussy d'Amboise. Bon débarras, pense-t-il. La dame de Montsoreau, elle, reprend son rôle d'épouse, sans toutefois abandonner sa place de dame d'honneur de Catherine de Médicis, sans cesser d'avoir sa place au sein de l'affriolant escadron volant. Le couple aura 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Seule Marguerite de Valois, la reine Margot, s'émeut de la disparition de Bussy. Elle loue son courage, elle sait qu'il s'est battu comme un lion. Dans ses mémoires, elle célébrera son charme et son panache. Mais très intuitive, elle a deviné que son frère Henri III a été impliqué dans l'assassinat, qu'il a immolé Bussy par jalousie. Des chroniqueurs, des rimeurs rédigent quelques épitaphes et puis plus rien. La reine Margot l'a-t-elle pleuré? Elle l'avait aimé. Elle n'a pas pu s'empêcher d'imaginer son beau corps empalé sur une grille et percé par les lames de sbires apostés par un mari jaloux. Mais elle ne peut oublier non plus qu'il est mort à cause d'une autre femme. Alors finalement, à la cour comme à la ville, tout s'oublie. La belle Françoise de Chambre, dame de Montsoreau, décédera dans la 60aine le 29 septembre 1620, sous le règne de Louis XIII. Voilà pour ce récit partagé avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.